Bonsoir. Dans ce quatrième cours sur le thème des formes urbaines en mouvement et de l'architecture de l'interurbanité, j'entends me pencher sur Paris. Paris saisi au cours de deux cycles particuliers, ce que j'appellerais le cycle classique, le cycle de l'embellissement, et le cycle haussmannien. D'emblée, je pense qu'il est important de souligner comment, dans le cas de Paris, comme dans le cas de Rome, que j'ai considéré la semaine dernière, la réalité matérielle de la ville et sa dimension mythique se conjuguent pour déterminer son rayonnement. La capitale de la France, dont nous voyons ici une vue à vol d'oiseau au temps de sa splendeur à la fin du Second Empire, d'une splendeur qui n'a cessé de se renforcer et de se multiplier depuis. Cette ville a, notamment au XIXe siècle, été le support de représentations mythiques ou fantasmagoriques, dont un observateur éminent, à côté évidemment de Walter Benjamin, a été Roger Caillois, dont l'article « Paris mythe moderne » de 1937 reste exemplaire de ce point de vue. Caillois écrit, je le cite, « Il existe une représentation fantasmagorique de Paris, plus généralement de la grande ville, assez puissante sur les imaginations pour que jamais en pratique ne soit posée la question de son exactitude. Créée de toutes pièces par le livre, assez répandue néanmoins pour faire maintenant partie de l'atmosphère mentale collective et posséder par la suite une certaine force de contrainte. » C'est cette vision de Paris, non seulement capitale de la France, mais capitale du monde, en tout cas, ainsi qu'elle se voudra l'être, et comme l'a étudié Patricie Gonnet dans un très joli livre sur ce thème, « Paris, capitale du monde », c'est cette idée, ce destin de Paris qui va propulser ses formes urbaines vers d'autres villes de France, d'Europe et du monde. Alors, je voudrais commencer mon propos avec le Paris de l'Ancien Régime. On le voit ici à la moitié du XVIIIe siècle, avant que le mur des fermiers généraux, jalonné par les barrières de Claude-Nicolas Ledoux, ne soit construit. La ville est dense et seuls peu de projets de transformation délibérés ont été menés à bien depuis le début du XVIIe siècle. Les boulevards, l'anneau des boulevards remplaçant les remparts disparus, certes, et les places. Ces projets sont cependant marquants. Le premier projet de transformation qui m'intéresse aujourd'hui, et évidemment je propose un raccourci parfois un peu, qui sera parfois un peu abrupt. Le premier programme de transformation est celui qu'engage Henri IV, dont la figure dominante est celle de la place à ordonnance, à commencer par la première réalisée, la place royale dite des Vosges, qui trouve ses origines dans des places comme celle de Livourne ou de Charleville, des places à arcades. Ce n'est que plus tard que la statue du souverain sera érigée en son milieu. D'autres places suivent qui n'ont pas vocation, elles, à être royales, bien qu'elles ne puissent être réalisées qu'avec l'assentiment et voire la participation financière du roi. C'est le cas de la place Dauphine, que l'on voit ici presque tangentiellement, opération privée articulée avec la construction du Pont Neuf, dont on sait que c'est le premier pont ouvert de Paris, le Pont Neuf et la rue Dauphine. La place se trouve ici. Donc c'est une opération qui sera menée à bien, en partie menée à bien, en tout cas pour la place elle-même. Une autre opération projetée peu avant l'assassinat d'Henri IV, en 1610, comme on le sait, aurait été la place de France, tracée dans l'actuel Marais, et qui aurait eu une sorte de fonction restructuratrice. On la voit ici, alors sans doute l'écho de ce qui venait de se passer à Rome, à la Piazza del Popolo, est-il palpable ici? En tout cas, cette place, avec ses voies rayonnantes, aurait eu un impact tout à fait significatif sur ce Paris qui est aujourd'hui nommé le Marais. Quelques rues, d'ailleurs, dans le Marais, conservent aujourd'hui le souvenir des rues qui portent des noms de provinces, rue de Saint-Onge ou rue de Poitou, mais qui ne sont pas nécessairement dans le tracé de la place, en garde aussi la mémoire. Et je voudrais ici, en ce début du XVIIe siècle, évoquer l'importance de cette métaphore de l'embellissement urbain, de l'unité urbaine, à propos des premières pages du discours de la méthode de Descartes. Ces phrases qu'il écrit lorsqu'il se propose, je le cite, de mettre de l'ordre dans ses pensées, de mettre de l'ordre dans ses pensées, en aspirant à l'unité de conception qu'une ville conçue d'un seul jet assurerait. Sans lire en totalité ce passage admirable, j'en lirai simplement le début. Ainsi voit-on que les bâtiments qu'un seul architecte a entrepris et achevés ont coutume d'être plus beaux et mieux ordonné que ceux que plusieurs ont tâché de raccommoder en faisant servir de vieilles murailles qui avaient été bâties à d'autres fins. Ainsi, ces anciennes cités, qui n'ayant été au commencement que des bourgades, sont devenues par succession de temps des grandes villes, sont ordinairement si mal construites. Paris, par exemple, sont devenues par succession de temps des grandes villes, au prix de ces places irrégulières qu'un ingénieur trace à sa fantaisie dans une plaine, qu'encore que, considérant leurs édifices chacun à part, on y trouve souvent autant ou plus d'art qu'en ceux des autres. Donc, ce que Descartes nous incite à penser, il nous incite à penser à la transformation unitaire des villes, de la même manière qu'il se propose de concevoir de façon unitaire son propre propos. Mais dans les pratiques de transformation de Paris, cet horizon est bien lointain. Sous le règne de Louis XIV, d'autres places royales sont mises en chantier. La place des Victoires, circulaire, avec une statue du roi. La place Louis le Grand, aujourd'hui dénommée place Vendôme, avec un plan qui est celui d'un octogone étiré. Donc, les façades de cette place, on le sait, resteront longtemps dressées dans le vide, dans l'attente que soient construits les hôtels particuliers qui étaient censés, dans cette spéculation parrainée par le roi, venir la border. Et ce modèle se déploie dans le reste de la France, où de ce qui est un moment considéré ici comme le Grand-Duché de Lorraine. La place Stanislas de Nancy est une grande place rectangulaire associée à une autre place rectangulaire qui est la place de la Carrière, et elle servira de modèle, ou en tout cas sera un des termes de réflexion de Camille Losite dans son ouvrage de 1889, à tout le moins dans sa version française. Le programme des places royales s'étend dans tout le pays avec beaucoup de variétés. Ici, à gauche, la place de la Bourse à Bordeaux, qui est en quelque sorte une demi-place, puisqu'elle borde le cours de la Garonne. La place royale de Reims, qui, elle, est une place rectangulaire, comme celle de Nancy, et qui sera particulièrement longue et lente à réaliser, ce qui lui attirera l'ironie de Diderot. La réflexion sur l'embellissement et sur l'extension de cette attitude ponctuelle portant sur les places à des ensembles urbains est une réflexion que théorise l'abbé Laugier en 1753 dans son essai sur l'architecture, où il propose une sorte d'embellissement généralisé en prenant comme terme de comparaison, comme horizon de comparaison, la figure des voies forestières. Dans ce passage célèbre, il écrit « Il faut regarder une ville comme une forêt. Les rues de celle-là font les routes de celle-ci et doivent être percées d'eux-mêmes. Ce qui fait l'essentielle beauté d'un parc, c'est la multitude des routes, leur largeur, leur alignement. Mais cela ne suffit pas. Il faut qu'un Lenôtre en dessine le plan, qu'il y mette du goût et de la pensée, qu'on trouve tout à la fois de l'ordre et de la bizarrerie, de la symétrie et de la variété. » Donc il y a un programme très précis, qui n'est pas pour autant suivi ou observé par ceux des architectes qui s'attachent à généraliser l'embellissement. Et j'en veux pour preuve les deux projets de Blondel pour Metz en haut avec ce système de place orthogonale, ou surtout son projet pour Strasbourg et sa séquence conduisant depuis l'entrée de la ville jusqu'à ce qui est aujourd'hui la place Kléber. Donc cette séquence de rues et de places hostiles à Laugier, vivement hostiles à Laugier, Blondel affirme à propos de ce projet, je cite, « Il ne faut pas s'attendre à trouver dans ces projets, à y trouver ces projets à perte de vue que proposent de temps à autre nos spectateurs oisifs. » Spectateurs oisifs, eh bien, c'est Laugier qui n'est pas un praticien. Donc il y a un peu de mépris de l'architecte pour le critique dans ce passage. La question de l'embellissement est traitée par les beaux esprits, et j'en veux pour preuve ce texte de Voltaire dont je reparlerai parce que Voltaire a comme terme de comparaison pour réfléchir sur Paris le cas de Londres où il a vécu et qu'il analyse fort justement. Voltaire ironise sur ces projets. Il s'agit bien seulement d'une place. Paris serait, c'est-à-dire de la place Louis XV qui est alors en discussion. Il s'agit bien seulement d'une place. Paris serait encore très incommode et très irrégulier quand cette place serait faite. Il faut des marchés publics, des fontaines qui donnent en effet de l'eau, et pas des fontaines taries, des carrefours réguliers, des salles de spectacle. Il faut élargir les rues étroites et infectes, découvrir les monuments qu'on ne voit pas et en élever qu'on puisse voir. Donc Voltaire, en 1749, peu avant que le concours pour la place Louis XV soit lancé et aboutisse à l'élaboration de toute une série de projets situés dans différents endroits de Paris. Un projet situé au Halles, c'est le projet de Beaufranc, un projet qui fondé sur l'unification de l'île Saint-Louis et de l'île de la Cité, un projet situé sur la rive gauche, ici, et d'autres dispersés dans la ville, qui sont tous un projet situé sur la place de Grève, et un enfin situé à l'extrémité des Tuileries, qui sera le lauréat, le projet de Gabriel, mais Pierre Patte les associe dans un dessin unique, comme s'il s'agissait d'un projet coordonné, d'un projet permettant d'imaginer une ville plus ouverte, assainie, cette ville que l'Académie de médecine appelle alors de ses voeux dans ses enquêtes et dans ses réflexions, ce que Bruno Fortier avait montré il y a très longtemps. Le projet lauréat, c'est celui de Gabriel, qui est architecte du roi et qui édifie deux bâtiments symétriques pensés, vous les voyez ici, pensés non pour être vus dans le cadre limité d'une place close comme celle que l'on a vue jusqu'à présent, mais comme l'horizon bâti d'une vaste esplanade intégrant le fleuve et la rive gauche. Une place ouverte. Une nouvelle échelle de l'urbanisme parisien est ainsi définie, qui trouvera des échos en Europe, par exemple à Saint-Pétersbourg. Peu de projets sont réalisés pendant la Révolution, donc une vingtaine d'années plus tard. Celle-ci utilise les grands espaces libres pour les célébrations, telle la mémorable fête de la Fédération, qui préfigure l'appropriation du Champ de Mars par les civils. Il y a malgré tout quelques opérations. Je pense à celle que permet des projets inaboutis. Pardon. Oui, je pense. Oui, à celle-ci. Tiens, je n'arrive pas à la voir. Voilà, si. La petite opération de la rue des Colonnes, qui est ouverte en 1792. Ces petites opérations sont rendues possibles par la vente des biens du clergé et de la noblesse émigrée qui libèrent des emprises parfois significatives dans Paris. Ces emprises permettent des petites opérations avec un certain sens de l'harmonie ici vont permettre, à partir du passage du Caire ouvert en 1798, de créer des galeries marchandes. Ce sont ces opportunités foncières qui vont permettre de transformer Paris, comme ce sera le cas plus tard dans des villes comme Moscou. Il y a aussi pas mal de projets de réflexion autour de l'idée d'un réseau d'édifices commémoratifs et de monuments. réflexion auxquelles participent les jeunes architectes étrangers présents à Paris, notamment le Prussien Friedrich Gilly, qui très lié à Schinkel et qui est un des premiers à imaginer une statue de la liberté que Bartholdi n'oubliera sans doute pas lorsqu'il s'agira pour lui d'imaginer celle de New York. Mais le moment, l'épisode déterminant dans cette période qui marque véritablement un tournant dans la réflexion sur Paris et sur son embellissement, c'est le plan de la commission des artistes réunie de 1794 à 1797. Elle travaille à un plan général de Paris composé de quatre inspecteurs de la voirie, parmi lesquels Verniquet, auteur du premier plan précis topographiquement de Paris, et sept architectes, parmi lesquels Charles de Vailly, auteur du lotissement de l'Odéon, et qui avait pris l'initiative, avant la Révolution, d'établir un plan d'embellissement de Paris, donc, qui prédate, si l'on peut dire, qui préfigure, qui anticipe sur le plan des artistes. Ce plan que l'on voit ici comprend diverses sortes de voies, des voies traversantes, ici une proto-rue de Rivoli et une proto-rue Saint-Antoine allant de la Bastille même du trône de la nation, de la place du trône slash de la nation, jusqu'au milieu de la colonnade du Louvre de Perrault. Et puis, on voit aussi pas mal de systèmes axiaux et des systèmes de lotissement plus modestes. Ce plan ne cessera d'être invoqué au XXe siècle dans une sorte d'auto-interurbanité de Paris, d'interurbanité qui voit Paris se nourrir de Paris, reprendre les figures parisiennes. Ce plan sera invoqué par les partisans d'un aménagement rationnel de Paris, tels que Louis Bonnier et Marcel Poët, qui sont les rédacteurs du rapport de la commission d'extension de 1913, et qui écrivent, je cite, « Son œuvre hâtive, improvisée, ne pêche pas par la timidité, mais peut-être par la hardiesse. » Ils en critiquent les ambitions. Maurice Halbwachs, le sociologue Maurice Halbwachs, extraordinaire observateur des villes et de leur économie et de leur société, est le premier à étudier de près ce plan dans un article de 1920. Et il en écrit « Plus encore que de faciliter les communications par des voies commodes, les artistes ont eu le souci d'appliquer certaines idées d'esthétique urbaine qui transparaissaient dans ces tracés symétriques, ces places circulaires d'où rayonnent des voies qui se coupent à angle droit, et dans ces rues et avenues parallèles dont la régularité, quelquefois, déconcerte. » Il n'est pas non plus complètement enthousiaste. Avec la destruction du quartier situé entre le Louvre et les Tuileries, l'œuvre majeure de l'Empire à Paris est la création de la rue de Rivoli, déjà envisagée par les artistes. Cette rue de Rivoli qui longe les Tuileries est conçue avec un dessin de façade uniforme, conçu par Charles Percier et Pierre-François Fontaine, et qui est appliqué systématiquement sur la rue et sur certains retournements de cette rue, comme on le voit ici. Donc c'est une première manifestation de l'embellissement parisien qui aura un succès bien au-delà des mers. Dans la colonie algérienne de la France, les premiers tracés de voies, ici le tracé de la rue Babazoun, qui trouve son origine dans la place du gouvernement, grande esplanade ou place d'armes créée par les colonisateurs peu après la conquête de 1830. Donc la rue Babazoun est une sorte de rue de Rivoli, je dirais, étroitisée, pour parler comme aujourd'hui. Donc c'est une première version qui est réalisée en 1840. 20 ans plus tard, après la visite de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie à Alger, le boulevard de l'impératrice, que vous voyez ici en élévation et ici dans le site, ce boulevard de l'Impératrice vient former une très longue rue de Rivoli face à la mer, perchée, comme je l'ai déjà dit, portée par des arcades et des rampes et des entrepôts conçus par une firme anglaise. C'est aussi la rue de Rivoli, bien que l'architecture soit très différente, qui inspire à Londres l'idée de créer une longue rue à l'architecture harmonieuse, sinon à l'architecture répétitive comme à Paris, qui est Regent Street, que John Nash dessine à partir de 1811. D'autres projets napoléoniens ne verront pas le jour, mais resteront dans la, je dirais, dans la bibliothèque mentale des projets parisiens. Leur grande entreprise, la grande entreprise de Percier et Fontaine aurait été la création du palais du roi de Rome sur la colline de Chaillot, dont seules quelques fondations furent creusées. Ce palais aurait été associé à un grand aménagement de la rive gauche du Champ de Mars, que vous voyez ici sur ce petit dessin. 40 ans après Waterloo, 40 ans après Waterloo, le préfet de la Seine, Haussmann, engage un autre Bonaparte, Louis-Napoléon, un programme de transformation sans précédent, portant sur un périmètre municipal étendu pour coïncider, ce que vous voyez ici, avec l'enceinte fortifiée bâtie au début des années 40, 41-45, en vertu d'une loi rédigée par Adolphe Thiers et qui finira par porter son nom, l'enceinte de Thiers. Donc, vous voyez, cette enceinte était un ouvrage autonome construit en plein champ entre Paris, encore contenu à l'intérieur du mur des fermiers généraux, et les environs. En 1860, on en voit ici la preuve, tous les territoires compris entre le mur des fermiers généraux et le mur de Thiers seront annexés à Paris, qui passera de 12 à 20 arrondissements. Donc c'est la politique d'Haussmann intervient dans une ville qui est agrandie 5 ans après le début de son programme. La réflexion sur l'aménagement de Paris était largement engagée dans une ville qui, en 1853, compte 1 million d'habitants, soit deux fois plus qu'à la Révolution, une ville qui en comptera 2 millions en 1870. Le choléra y fait 18 000 morts en 1832 et légèrement plus en 1849. Les insurrections s'y succèdent, comme vous le savez, 1830, février et juin 1848. Il y a une turbulence urbaine qui incite à la réforme. Il y a aussi de l'argent à faire dans le développement de quartiers nouveaux dans le centre. Un centre qui est bien insalubre et fort dense, comme le montrent ces photographies très, très précoces. Le quart de la population de Paris se concentre sur la rive gauche où elle est particulièrement serrée. L'initiative privée conduit dans cette période, avant Haussmann, pardon, entre la Restauration et Haussmann, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, au lancement de lotissements. Donc la ville ne reste pas dans une période, dans une forme stable. Elle se développe au moyen de lotissements. Le nouveau quartier Poissonnière, ici axé sur l'actuelle rue Lafayette. Le nouveau Grenelle, qui est un lotissement construit hors les murs, en dehors du périmètre municipal. Des percées sont réalisées, comme celle qu'inspire le préfet Rambuteau, et qui est ouverte en 1838, une voie courte, mais une voie rectiligne, qui est réalisée dans l'esprit du plan des artistes. Et puis, de nouveaux acteurs s'intéressent à Paris et préconisent l'introduction de voies de circulation, l'amélioration des communications. C'est le cas des Saint-Simoniens, comme ce Pérémont, qui propose de trouver un centre stable à Paris où une circulation facile serait garantie. Il propose de désagglomérer la ville avec sa population dangereuse, vicieuse ou misérable, d'épurer la ville de ses scories. Il attend de Paris qu'elle soit le modèle des capitales, donc il y a une volonté très nette d'exportation du modèle parisien, et qu'elle soit la reine des cités. Proche des Saint-Simoniens, Napoléon III n'ignorera pas ses préconisations quand il imaginera son propre plan de transformation. Mais je crois qu'il est très important, et ici j'évoque à nouveau la mémoire de Pierre Pinon, dont j'ai parlé brièvement il y a une semaine. Pierre Pinon a réalisé une série de cartes extrêmement édifiantes relativisant l'apport d'Haussmann et montrant comment, avant Haussmann, dès les années 1840, une série de tracés avait déjà été imaginée, avait déjà été envisagée. Voici les percées décidées et certaines percées réalisées avant donc, le Second Empire. L'idée de créer un nouveau réseau de voies est déjà en train d'être mise en œuvre. Avant même, ou plutôt au moment où Haussmann devient préfet de la Seine, la commission des embellissements d'Henri Siméon élabore un plan à la demande de Napoléon. C'est un plan qui précède immédiatement Haussmann, un plan pour la création de voies nouvelles. Vous voyez que c'est un réseau qui est un peu discontinu, mais qui est particulièrement précis dans le centre autour des Halles qui sont en cours de construction à cette époque. Donc il y a, avant l'arrivée d'Haussmann, et je crois que c'est un des principaux résultats de la recherche menée depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, c'est de relativiser l'apport d'Haussmann dont il s'est vanté, en dressant un monument à lui-même dans ses mémoires. Le système haussmannien atteint une nouvelle échelle et un principe systématique de transformation urbaine. Il dérive indirectement du dispositif de Sixte Quint, mais aussi des précédents, comme le plan des artistes. C'est ce qu'écriront Bonnier et Poète en 1913, quand ils diront « C'est un plan des artistes incomparablement étendu et retouché à l'anglaise. » On a souvent insisté sur l'aspect militaire, répressif du plan d'Haussmann. Et il est vrai que la Chambre avait demandé des rues anti-émeutes en 1851. C'est le fond de l'analyse de Walter Benjamin. Le véritable but des travaux de Haussmann, écrit-il, c'était de s'assurer contre l'éventualité d'une guerre civile. Il voulait rendre impossible à tout jamais la construction de barricades dans les rues de Paris. Poursuivant le même but, Louis-Philippe avait déjà introduit les pavés de bois. Néanmoins, les barricades avaient joué un rôle considérable dans la révolution de février 1848. Haussmann cherche à les prévenir de deux façons. La largeur des rues, écrit Benjamin, en rendra la construction impossible, et de nouvelles voies relieront en ligne droite les casernes aux quartiers ouvriers. Les contemporains ont baptisé son entreprise l'embellissement stratégique. C'est ce qu'avait noté de son côté Friedrich Engels, le compagnon de Marx, que cite Benjamin d'ailleurs, lorsqu'il voit dans Haussmann la pratique d'ouvrir des brèches dans les arrondissements ouvriers. Mais il est clair que les visées stratégiques sont loin d'être les seules. Il y a des visées hygiénistes. On sait que le choléra a touché autant la bourgeoisie que la classe ouvrière dans Paris. L'idée d'un assainissement est une idée que Napoléon III, que Louis-Napoléon formule dès 1850 à la Chambre lorsqu'il propose d'ouvrir de nouvelles rues en assainissant des quartiers populaires qui manquent d'air ou de jour et que la lumière bienfaisante du soleil pénètre partout dans les murs. Donc il y a une visée hygiéniste, il y a une visée esthétique, il y a une visée commerciale, faire de Paris une ville commerçante et touristique. Napoléon III connaît de très près les transformations pour construire ce nouveau Paris qui, comme vous le voyez dans cette magnifique gravure de Doré, est un Paris qui se construit sur les décombres, sur les décombres dans l'ancien. Pour construire ce nouveau Paris, Napoléon s'inspire de ce qu'il a vu à Londres, des réformes préconisées par Chadwick à Londres, dont je parlerai, mais aussi de Rome. Dès 1842, alors qu'il était en prison, Louis-Napoléon écrivait « Je veux être un second Auguste parce qu'Auguste a fait de Rome une ville de marbre. » Donc il ne manquait pas d'ambition. La centralisation des décisions est extrême. L'empereur et le préfet, le conseil municipal étant réduit à la portion congrue, et le périmètre étant étendu en 1860 avec l'absorption des territoires situés entre les deux enceintes, ce que montre de façon très amusante cette caricature du monde illustré où l'on voit le Paris périphérique se réfugier sous les jupes d'un Paris féminin. Le chantier est un chantier extrêmement intéressant par la mise en œuvre de, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, la mise en œuvre de techniques presque industrielles de travail du bois, de la pierre, du métal, du verre, de la céramique. Il est indissociable, on le sait, de l'apparition du crédit immobilier et de l'emprunt, qui permettra à Haussmann non pas de financer les travaux avec le budget de la ville, le budget annuel de la ville, mais d'utiliser ce budget pour payer les emprunts permettant de faire des travaux 10, 100 fois plus considérables. Donc un système économique qui ne se résout pas à la logique des expropriations, mais qui permet le lancement de chantiers considérables, puisque certaines années, presque un millier d'immeubles seront réalisés. Je reviens à Pinon et à son analyse des tracés dessinés par Napoléon, que l'on voit ici selon les différentes hypothèses. Ce n'est pas la carte la plus claire de Pinon, puisqu'elle superpose les différents réseaux que l'on trouve à différents moments sur les plans que trace Napoléon, qu'il fait tracer, et dont le principal est celui qui était dans son bureau des Tuileries et qu'il montrera avec un grand enthousiasme au roi de Prusse en 1867, à Guillaume Ier. On a coutume de résumer les transformations haussmanniennes au système des trois réseaux. C'est ce que, en tout cas, Haussmann invite ses lecteurs à faire dans ses mémoires. De quoi s'agit-il ? Ces voies, les voies de ce système que l'on pourrait baptiser napoléonien-haussmannien, puisqu'Haussmann lui-même affirmera avec un peu de fausse modestie qu'il n'a été que l'instrument loyal de Sa Majesté, mais qu'il n'aura pris aucune initiative, ce qui est loin d'être vrai. Ils auront chacun leurs architectes privilégiés et s'affronteront par architectes interposés, Napoléon soutenant Itorf, par exemple, contre Haussmann. Le dispositif haussmannien est un système de systèmes, si je puis dire, qui comprend des voies de portée urbaine, portée à l'échelle de l'ensemble de la ville, que l'on peut comparer à ces voies transcendantes qui traversent l'extension de Barcelone par Cerdà. Il y a des voies de lotissement, qui sont les voies plus capillaires dans les périphéries, et il y a des voies intermédiaires. Les trois réseaux qu'Haussmann distingue dans ses mémoires sont les suivants. Le premier réseau est celui des voies déjà décidées lorsqu'il est en, il arrive à Paris et qui sont financées par l'État tout seul. Le deuxième réseau, c'est celui des rues financées par l'État et la ville. Et le troisième réseau, c'est celui des autres voies financées par les privés, des voies de lotissement. Donc il y a des logiques économiques différentes juxtaposées sur un plan qui va permettre de créer des figures reliées les unes aux autres dans une perspective de liaison des grands équipements. Ce que l'on voit ici très bien dans ce plan d'un ouvrage ancien, mais dont les représentations sont encore utiles, où l'on voit comment la grande croisée de la rue de Rivoli et de l'actuel boulevard de Sébastopol, à l'époque boulevard du Centre, se prolonge donc au nord par un dispositif qui met en liaison un certain nombre de points nodaux, les Halles, la République, et qui se connecte ensuite avec les grands édifices publics de l'ouest de Paris. Donc un système, vous voyez ici comment les liaisons à l'échelle de la ville se conjuguent avec des voies de desserte plus locales et comment grand soin est pris d'éviter les expropriations coûteuses sur les voies marchandes que sont la rue Saint-Martin ou la rue Saint-Denis. Donc c'est une image du dispositif qui est assez frappante. Autre image frappante, c'est celle qui nous montre comment l'avenue de l'Opéra est créée en diagonale, donc comment cette figure de la diagonale va être caractéristique des opérations haussmanniennes. Elle va permettre de lier entre eux de nouveaux centres, mais elle va aussi déboucher sur un paysage, permettre un paysage urbain nouveau dans lequel les îlots triangulaires seront magnifiés par leurs angles. C'est ce que l'on voit sur cette photo aérienne qui nous montre comment d'une part, la colonnade de l'Opéra de Garnier se prolonge avec les ordonnances des îlots à côté, comment les proues de ces îlots, les angles de ces îlots, créent un deuxième système monumental qui n'est pas celui du grand édifice, mais celui des grands îlots d'habitation. Le Paris haussmannien, c'est aussi un Paris sédimenté verticalement, ou en tout cas qui engage une sédimentation verticale. J'en veux pour preuve le quartier de l'Europe et le pont de l'Europe que vont peindre Caillebotte et autres impressionnistes. Donc on voit ici comment cette gare Saint-Lazare, ce lieu de la modernité ferroviaire, engendre un système situé en contrebas de la ville existante qui le traverse en hauteur. Donc c'est une ville en élévation, c'est aussi une ville souterraine. Le système des égouts se superpose, si je puis dire, intervient en sous, au droit du système des boulevards. C'est aussi un système assaini par les promenades et transformé, qui ne sont pas simplement pensées dans une logique hygiéniste, mais aussi dans une logique d'embellissement. Elles sont présentées dans leur totalité par le directeur des promenades de Paris, Alphan, qui survit à Haussmann et à l'Empire et qui poursuit la politique d'Haussmann après la proclamation de la Troisième République. Parmi les projets d'Alphand, un des plus importants, c'est la transformation du bois de Boulogne, à laquelle Napoléon III était particulièrement attaché. On voit ici ce bois de Boulogne qui vient buter sur le mur d'enceinte de Thiers et les tracés dans lesquels on trouve quelques voies rectilignes, mais aussi beaucoup de voies sinueuses et un lac repris de la Serpentine de Hyde Park. Donc Paris, là aussi, trouve Londres comme source. À l'intérieur de Paris, comme l'ont montré les auteurs de l'exposition de l'Arsenal en 2017, qui ont fait un travail extraordinaire de reconstruction et d'analyse graphique, à l'intérieur de Paris, une très grande hiérarchie d'espace public dont on voit le mouchetis sur ce dessin. Quant aux îlots et aux parcelles, eh bien, il relève d'un système fait de figures géométriques répétitives, figures polygonales et souvent triangulaires, ainsi ceux que l'on voit ici, des îlots triangulaires qui sont ensuite découpés selon la bisectrice des angles et qui aboutissent donc à un réseau de cours parfois mis en commun entre les appartements. Donc un système très particulier dans lequel les parcelles ne sont pas modulaires et répétitives comme à Londres, mais s'adaptent aux capacités d'investissement des propriétaires, grands, petits, moyens. Dans beaucoup de cas, plus belle illustration de ce principe du découpage triangulaire des îlots, et c'est ce grand tableau de Caillebotte qu'il faut aller voir à Chicago. Une autre remarque intéressante, c'est l'ajustement, quand les îlots ne sont pas des îlots autonomes, c'est l'ajustement de la géométrie des nouvelles voies et de la géométrie existante des parcelles. Ici, un des plus intéressants dessins de ce vieil ouvrage de Castex, Padré et De Paul, de l'îlot là-bas, pratiquement 45 ans, vous voyez comment les parcelles du boulevard Voltaire sont tracées, donc elles sont d'une part perpendiculaires au boulevard pour créer les pièces de réception, les pièces nobles. Quant aux pièces intimes ou aux pièces de service, eh bien, elles s'ajustent de la géométrie des îlots existants. Et donc les plans sont des plans parfois anguleux. Ceci aboutit à une nomenclature de plans d'immeubles tout à fait variés, ce que, à nouveau, les auteurs de Paris Haussmann ont figuré dans ces planches comparatives tout à fait édifiantes et qui n'avaient guère de précédent. À l'intérieur de ces îlots, et ce n'est pas mon propos que d'analyser ces appartements, encore que devenus à la mode grâce aux publications comme celle de César Daly, ces appartements se soient multipliés dans les grandes villes de France, déjà sous le Second Empire. Donc ce sont des appartements dans lesquels il y a différenciation entre les pièces de réception, les pièces intimes ou de service, dans lesquelles le principe de la double circulation permettant aux domestiques de circuler incognito, ni vu ni connu, à l'écart des enfilades pratiquées par les maîtres. Ces systèmes sont mis au point et perfectionnés de façon tout à fait exemplaire. Ici, on voit particulièrement bien ces systèmes de double circulation, ces couloirs infinis qui transforment ces appartements en petits théâtres domestiques. Ces découpages horizontaux à l'échelle de l'îlot, de la parcelle ou de l'immeuble, donc trois échelles, îlot, parcelle, immeuble, sont recoupés, si je puis dire, par des découpages verticaux qui changeront de nature dans les années 80 lorsque les premiers ascenseurs hydrauliques rendront les étages supérieurs aussi désirables que les étages inférieurs. Ici, on voit comment, entre la monarchie de Juillet et donc la Troisième République, la coupe de l'immeuble se transforme, et comment, finalement, une juxtaposition de classes sociales qui était une juxtaposition verticale, les plus riches, les moins riches, les plus pauvres en haut, cette juxtaposition devient horizontale. Elle s'opère par quartier, elle s'opère ou même à l'intérieur des immeubles, au travers de la distinction entre l'immeuble sur rue et l'immeuble sur cour, l'immeuble de fond de parcelle. Paris est une ville qui se différencie socialement aussi au travers de ce programme. Une ville dont le paysage devient un paysage uniforme, marqué par la tyrannie des horizontales, par ces horizontales qui sont prescrites au moment du dépôt de permis de construire et qui vont permettre de créer un paysage continu et harmonieux. La quantité bâtie est tout à fait considérable, et je reviens une dernière fois à ce document qui montre de façon, je pense, tout à fait saisissante la densité des édifices nouveaux construits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc on voit qu'il s'agit d'une production tout à fait considérable, qui se poursuit d'ailleurs après l'Empire. Et je reviens une dernière fois aux cartes de Pierre Pinon. Celle-ci nous montre les dates d'achèvement des percées, et nous voyons en bleu toutes celles qui sont achevées après l'Empire. Et ce ne sont pas les plus médiocres. La rue Réaumur, qui va intéressante parce qu'elle deviendra une voie spécialisée bordée d'immeubles de bureaux, l'avenue de la République, mais aussi l'achèvement du boulevard Saint-Germain, la création du boulevard Raspail, l'achèvement de la rocade Tolbiac-Alésia, Vouillé-Convention. Donc ce sont des rues majeures de Paris que l'on a coutume de considérer comme haussmanniennes et qui sont en fait post-haussmanniennes. Le boulevard Haussmann lui-même, qui ne sera pas achevé avant les années 20. Tout ceci laisse des traces, et je dirais que la principale trace, ou en tout cas une des traces les plus importantes, elle n'est pas à trouver sur le terrain, elle se trouve dans les caisses de la ville qui remboursent les emprunts haussmanniens jusqu'à la fin des années 20, sinon au-delà. La capacité d'investissement de la ville de Paris est gravée par ces sommes considérables engagées par Haussmann sur des durées extrêmement longues. Bon, Haussmann fut célébré, mais fut vigoureusement critiqué. Il revendiqua, à cause de l'adduction d'eau, d'avoir le titre d'aqueduc. Il était moins content d'être traité d'artiste démolisseur. Et l'on sait combien les destructions susciteront de protestations, à commencer, avant même Haussmann, par la guerre aux démolisseurs de Victor Hugo. Surtout, c'est la monotonie du paysage urbain produit sous Haussmann qui attirera les critiques. Les chambres accuseront Haussmann d'avoir créé un désert dans Paris. Dans un opuscule de 1868, Paris désert, on lit, je cite, « Tu vivras pour voir la ville désolée et morne, et la solitude, la longue déesse des déserts, viendra s'asseoir sur cet empire nouveau que tu lui auras fait par un formidable labeur. » Pour Walter Benjamin, l'époque est possédée par une soif inextinguible de perspectives. Il parle d'une rhétorique de théâtre, écrivant, le goût d'Haussmann pour la perspective représente une tentative pour donner des formes d'art à la technique urbanistique. Cela conduit toujours au kitsch, ici le kitsch de l'alignement infini. Les architectes participeront de ces critiques. Viollet-le-Duc s'opposera à la monotonie des façades et soulignera, je cite, le manque d'attirance du regard sur aucun de ces points. Charles Garnier, pourtant gâté par l'Empire, puisqu'il aura gagné le concours pour le Grand Opéra, déplorera, quant à lui, ces longues perspectives de façades régulières, revêtues d'une ornementation vulgaire et toujours identique à elle-même. Elles font l'admiration de la foule et l'orgueil des propriétaires, mais attristent parfois l'œil de l'artiste. Apparemment pas complètement, puisque l'on verra, on voit dans les toiles de Caillebotte et aussi celles de Munch lors de son séjour à Paris, qu'il peut y avoir, mais dans ces toiles qui célèbrent plutôt chez Munch le mouvement, la dynamisme, que les artistes y trouvent un intérêt. Alors la révolte contre la monotonie du paysage, elle va conduire au règlement de 1902, au règlement anti-haussmannien de Louis Bonnier, et l'on comprend ici comment, après des décennies de critiques, contre un paysage qui a été légèrement transformé, qui est devenu un peu plus varié lors du règlement, avec le règlement post-haussmannien, premier règlement post-haussmannien de 1882, on voit comment Bonnier réussira à introduire la variété, notamment en brisant la continuité horizontale et en stimulant, en encourageant les élaborations, les façades élaborées et construites verticalement. Paris, et j'en termine avec une série d'interurbanité dans lesquelles Paris est engagé, Paris comme source, Paris devient un objet de visite, notamment au travers des expositions universelles, celle de 1867, celle aussi de 1878, après que l'Empire ait disparu. Les Américains sont parmi les plus admiratifs, mais pas de façon unanime. Henry James, qui déteste les villes des États-Unis et admire Rome et Paris, mais ces villes dans leur dimension historique, ne manquent pas de dénoncer, comme les auteurs que j'ai cités, la « deadly monotony » d'Haussmann. Chez les professionnels, en revanche, le regard est plus attentif et de façon très symptomatique, c'est un regard qui se porte sur l'économie du Paris haussmannien. Dans « The Architectural Record », cet auteur, Edward Robinson Smith, discute le concept de dépenses productives et justifie les dépenses haussmanniennes par les bénéfices apportés à l'économie parisienne. C'est ce que fera aussi en 1909 Daniel Burnham, l'architecte de Chicago, auteur du plan de Chicago de 1909, qui est un plan qui préconise une sorte d'hyper-haussmannisation de Chicago. Burnham écrit qu'il faut applaudir la vision à long terme de Louis-Napoléon, qui a réussi à financer les travaux d'amélioration du barreau Haussmann, qui ont fait de Paris la Mecque des voyageurs. Que serait la prospérité des habitants de Paris si elle n'était simplement qu'une ville pratique et rien de plus? Donc ici, Burnham essaye d'observer, de mettre en œuvre la leçon de Paris dans le centre de Chicago. Vous voyez qu'il construit pas simplement un opéra, mais deux, et ce grand édifice, cette espèce de basilique Saint-Pierre centrale. L'urbanisme dans cette période, au début du XXe siècle, c'est avant tout une discipline allemande, et les principaux traités d'urbanisme allemand, ici celui de Joseph Steuben, de Städtebau, sont des traités dans lesquels le Paris haussmannien est décortiqué, démonté dans ses éléments composants, les éléments de plan, les coupes, jusqu'au mobilier urbain, comme pour fabriquer la boîte à outils de l'urbaniste moderne. Les auteurs allemands, Fritz Stahl un peu plus tard, mais avant lui Schaeffler, que j'ai déjà cité, ne tariront pas d'éloges dans leur livre très populaire. Pour Stahl, que Benjamin cite avec délice, le seul urbaniste génial de l'époque moderne, c'est Haussmann, qui a contribué indirectement à la création de toutes les métropoles américaines. Ce qui n'est pas totalement vrai. Il n'a pas détruit Paris, il l'a achevé. Haussmann était assurément un maniaque, mais son œuvre ne pouvait être accomplie que par un maniaque. Alors, où cela nous conduit-il ? En France, presque toutes les grandes villes lancent, dès le Second Empire, des chantiers de nouvelles percées, de percées plutôt. Nouvelles percées, c'est un pléonasme, donc de percées ambitieuses. Ici, les améliorations préconisées par le préfet Weiss dès 1853 à Lyon, donc c'est un plan plus tardif, avec ces deux voies parallèles qui sont tracées dans la presqu'île, la rue de l'Impériale et la rue de l'Impératrice. La rue Impériale, c'est l'actuelle rue de la République. La rue de l'Impératrice, c'est l'actuelle rue Édouard Herriot, donc qui relie les places, notamment ici l'Hétéro à la place Bellecour. Donc un système très, très clair de liaison urbaine. C'est Lyon. Plutôt une perspective d'embellissement et pas nécessairement liée au fonctionnement, à l'économie primaire de la ville. Ce n'est pas le cas à Marseille, où la rue impériale locale, rue de la République, relie le vieux port et les nouveaux aménagements portuaires de la Joliette. À Metz, ce sont deux rues baptisées, je dirais poétiquement, la rue transversale et la rue longitudinale, qui sont tracées à la fin du Second Empire et qui deviendront des fêtes lors de la guerre franco-prussienne, obligeant la rue de Metz et la rue Alsace-Lorraine. À Nantes, la rue de l'Impératrice deviendra la rue de Strasbourg et sera réalisée de façon assez tranquille, assez lente, je dirais, jusqu'au début du XXe siècle. On pourrait aussi penser à la rue impériale de Montpellier, qui s'appelle aujourd'hui rue Foch, à la rue impériale d'Avignon, qui s'appelle aujourd'hui le cours Jean Jaurès. Et je vous renvoie pour cela aux très beaux travaux de Michael Darin sur l'haussmannisation de la province. Ces projets menés en France relèvent d'une interurbanité assez simple, la reproduction des percées parisiennes selon un principe isomorphe dans lequel le rapport entre la voie nouvelle et le parcellaire est semblable. Ici, la figure de la voie et de la recomposition du parcellaire, ici c'est avant la dite recomposition, est très semblable à ce qui se passe à Paris. Le système est simplifié et il y a peu de cas dans lesquels les voies se multiplient. Ce système est exporté dans les villes qui connaissent des cycles de modernisation importants dans cette phase. C'est le cas en Italie avec le rettifilo de Naples, tracé entre la gare et le port, cette voie rectiligne qui est bien seule dans la tentative de réorganisation de Naples, dont le centre est laissé fort heureusement à lui-même et n'a été que marginalement tripoté, je dirais, par le fascisme. À Budapest, c'est l'Andrássy út qui est tracé entre le centre de la ville, le Danube, et le Városliget, et le parc de ville, donc une voie tout à fait haussmannienne dans son principe, pas complètement, je dirais qu'elle est plutôt post-haussmannienne dans le traitement des façades, et elle recoupe, comme à Paris, il y a donc une croisée comme à Paris, elle recoupe le Nagy körút, ou Grand Boulevard, dans une inspiration qui est, je le répète, plus parisienne que viennoise. Outre-Atlantique, le lien avec Paris pour Buenos Aires, dont je parlerai dans la dernière séance de ce cours, est assuré par la continuité des intervenants, des personnes, en l'occurrence Joseph Bouvard, qui était le chef des services d'architecture de la ville de Paris et un ancien de l'équipe Alphand, qui Bouvard élabore un projet entre 1907 et 1909, un plan de ville dans lequel il trace cette diagonale coupant en biais la trame de la ville. New York, il n'y a pas de plan d'ensemble applicable véritablement. Les plans de la commission des améliorations municipales de 1907 n'est pas vraiment appliqué en tant que tel, mais les deux grandes avenues, la 6e et la 7e, sont prolongées en biais à travers le tissu existant, à la fois pour des raisons circulatoires, mais aussi pour des raisons esthétiques, parce qu'en effet, ce tracé permet de créer des situations d'angle et des édifices monumentaux. L'idée étant aussi d'introduire de la régularité dans un paysage urbain passablement désordonné. Revenons à Paris pour terminer, ou presque. La contribution haussmannienne est redécouverte et théorisée au moment où les derniers chantiers sont menés à bien. Par exemple, à Boulogne-Billancourt, ville adjacente, limitrophe de Paris, comme vous le savez, où le maire socialiste André Morizet réalise de grandes percées lui permettant de créer un centre nouveau qu'il situe dans la continuité haussmannienne en publiant le premier grand livre sur Haussmann jamais édité au XXe siècle. Ce que l'on voit ici, ce que l'on vient de voir dans les provinces ou dans beaucoup de villes d'Europe et d'ailleurs, c'est une interurbanité positive. La logique de la percée, parfois du système de percée. J'évoquerai une autre forme d'haussmannisme qui est un haussmannisme en quelque sorte négatif, un isomorphisme négatif. La structure d'Haussmann est utilisée, mais en quelque sorte retroussée, retournée. C'est le cas de Berlin, où une logique qui était une logique de travail sur la ville existante devient une logique d'extension. On en verra les figures très précises. C'est un cas à certains égards exceptionnel, bien qu'il soit destiné à être copié en Allemagne. Je terminerai en revenant à un de mes héros fétiches, c'est-à-dire à Le Corbusier, qui réfléchit sur Haussmann à un moment où l'œuvre d'Haussmann suscite des attentions très diverses. Elle fait pour la première fois l'objet, avant même le livre de Morizet, d'une étude d'histoire économique. À nouveau, j'évoquerai ici Maurice Halbwachs, qui enseigna au collège. Halbwachs soutint en 1909 une thèse de droit intitulée « Les expropriations et le prix des terrains à Paris de 1860 à 1900 ». Donc, il s'intéressait aux mécanismes économiques de l'haussmannisation, dans le même temps qu'il s'intéressait aux besoins collectifs qui avaient présidé au lancement de ce programme, dans une vision bien plus complexe que celle que quelqu'un d'aussi respectable que Walter Benjamin peut formuler. Et je crois que Benjamin, il faut le vérifier, n'avait pas lu Halbwachs. Quant à Le Corbusier, au moment où il expose son plan voisin radical, fondé sur la destruction du centre de Paris, un projet auquel Haussmann n'aurait pas pu rêver, Le Corbusier déclare en 1925 apprécier la chirurgie admirable d'un homme téméraire et audacieux, en dépit de ses moyens de chantier limités. Vous voyez cette page d'urbanisme, les ambitions de Haussmann et les moyens presque dérisoires, la brouette, l'échelle, la pioche qu'il utilisait. Que ne ferait-on pas à l'âge du fer et du béton, semble dire Le Corbusier. Ses réserves n'en sont pas moins évidentes quant à l'haussmannisation elle-même. Par exemple, lorsqu'il entend, dans cette conférence de Buenos Aires en 1929, assassiner la rue Corridor, cette rue Corridor qu'il avait rencontrée dans la ville australe, Buenos Aires, qui s'était tant inspirée des figures de Paris. Merci.